Émission en jase sur les ondes de Boulevard 101, ton résumé d'actualité. On va traiter de tous les gros dossiers ce midi. Évidemment, on va revenir sur ces accusations contre les policiers du SPVM. Enquête à l'heure actuelle, deux policiers suspendus pour des gestes racistes posés envers la communauté dans Montréal-Nord. Des gestes qui n'ont pas sa place, on va en parler évidemment. Par la suite, on va parler de cette chicane. Hey, on est reparti dans nos chicanes bleues et rouges. Wouhou! Paul Saint-Pierre, Plamondon et Charles Milliard. Là, on va chicaner à coup de poursuite. On va jaser de ça avec Antonine Iacarini, bien évidemment. Vicky Powell, avocate et criminaliste, va également nous parler un peu plus tard dans l'émission de ce qui se passe à Montréal-Nord. Luc Laliberté va nous parler de cette entente entre l'Iran et les États-Unis qui sera signée vendredi, de ce UFC sur les terres de la Maison-Blanche et du G7 cette semaine. Alex Laramé va être là parce que c'était une fin de semaine faste dans le sport. Les Hurricanes ont la Coupe Stanley. Les Knicks ont le trophée de l'NBA pour la première fois en 53 ans. Coupe du monde, on a fait notre premier point, le Canada à vie. Puis Lewis Hamilton, à 41 ans, a décidé de gagner un autre Grand Prix. Aïe aïe, pif, paf, pouf, padam.
Là, c'est le sevrage, graduellement,
oui,
avec la Coupe du monde.
Exactement. Moi, hein? Là, je l'ai dit, je suis vraiment... Je suis devenu fan de la Coupe du monde. Je l'avais écouté il y a de cela 4 ans. Mon Edouard m'a rappelé qu'on avait écouté la finale mettant aux prises l'Argentine avec la victoire de Lionel Messi un matin en déjeunant de fin de semaine. Il m'a rappelé ça samedi. Ah. J'ai dit, c'est vrai, je me souviens du match. Messi avait marqué, ça avait vraiment été bon. Et là, je suis tombé dans la Coupe du monde. Premièrement, vendredi, moi, la nulle de 1 du Canada. Écoute, j'ai crié ma vie dans le salon chez nous comme si ça en dépendait. Antonine, je m'excuse, j'ai remis mon drapeau du Canada dans les prochaines semaines.
Bon, c'est correct.
Tu le sais, quand il y a une compétition sportive...
Oui, je le sais.
Je redeviens patriote. Donc, ma nation, mon Connor McDavid qui était dans les estrades...
Ta nation?
J'ai
oh,
mis
mon Dieu.
Ça. Ouais, mais là, c'est...
Pour Jeff, ton pays, mettons, c'est correct. Là,
jusqu'à l'élimination. Non, bon, OK, mon pays, ça peut te faire
plaisir. Ouais, c'est mieux. C'est mieux.
Mon
tu sais,
pays...
tu sais, les mots ont une importance,
oui,
pour
c'est
moi.
Ça.
Alors.
Mon pays, mon Connor McDavid dans les estrades, mon acteur Ryan Reynolds, tu sais, c'est tous les miens. Là.
Ton Tim Horton.
Mon Tim Horton. Hey, non, je
mon Tim, ma nation, mon choix.
Ah, ouais. Je pense que j'ai bu du vin canadien, d'ailleurs, vendredi soir.
Ah, oh, ouais.
Un vin blanc.
De où?
Oh, ben, je pense que ça venait du Québec. Là, souvent, j'ai le vin blanc.
Ouais, vin blanc, c'est correct.
Ouais, j'ai le vin blanc de Sainte-Pétronille.
Oui,
bon. Oui,
ah,
oui.
Très bon produit,
bon,
par exemple.
Tellement une belle place.
Oui.
Bon,
oui.
Bref. Fait que là, je suis retombé là-dedans. Là, à 9h, pendant que j'écoutais le baseball de May Jays, parce que je suis retombé patriote canadien, et le football de mes Alouettes. Ça, c'est correct, c'est à Montréal,
oui,
c'est de Québec.
Ça, c'est correct.
Là, j'ai tourné ça aussi à la Coupe du monde à 9h parce que c'était le Paraguay contre les États-Unis. J'ai vu Katy Perry chanter, donc je me suis dit, c'est ça, Justin est là. Justin était là. Justin était pas à la game du Canada, il était à la game des Américains. Bon, on clôt le débat là. Il a dit, c'est mes responsabilités d'amoureux. Oui, ouais, c'est ça. Ton pays. Reste aux États-Unis, Trudeau. Et là... C'est fou comment je suis embarqué. Parce que samedi, je me suis retrouvé au Blackstone avant la NSPW Golden Opportunity, qui était un show extraordinaire. La WWE n'aurait pas pu donner un meilleur show que Golden Opportunity samedi. Pour 25$, c'est un vol. Moi et mes enfants, on a volé Steve Boutette et la NSPW. Ça valait 100$, ce show-là. C'était malade comme show. On se retrouve au Blackstone, et là, c'est en préparation Maroc-Brésil. Mais il y a plein de Marocains au bord du Blackstone.
Ben oui.
Hey, là, quand le Maroc a scoré, là, pas mêlant, je fêtais avec eux autres.
Mais ça revient exactement à la discussion qu'on avait la semaine passée. La meilleure façon de vivre la Coupe du monde, si vous n'êtes pas fan de soccer, c'est de faire ça. Aller dans les bars
oh, oui,
où on diffuse la Coupe du monde, aller vous intégrer... avec les gens qui sont vraiment fans. Tu sais, on avait une vidéo la semaine passée, justement, quand il y a eu le match Canada-Bosnie. Puis, tu sais,
oui,
on estime à 30 000 personnes de la Bosnie qui se sont déplacées quand même pour aller voir le match. T'sais, c'est pas rien comment...
Non.
C'est ça qu'il y a de beau dans le sport, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas, il y aura toujours un volet rassembleur
à ça. J'étais tellement pour le Maroc que là, le Brésil a scoré, j'avais le cœur fendu en mille, parce que j'étais avec mes Marocains.
OK, ouais, je comprends.
Tu comprends? Mm-hmm. Et là, je me suis retrouvé à Golden Opportunity, mais le match n'était pas fini, il y avait une deuxième demi. Fait que là, à checker sur mon sel, qu'est-ce qui se passe avec mon Maroc? Il y en a eu un contre le Brésil, une crise de grosse nulle. Fait qu'on se reporte à hier soir, où on est en train d'écouter la finale de la Coupe Stanley, moi et Moïdou dans le divan. Ben, chill out. Moi, j'ai une petite coupe de vin dans les mains. Puis la première période finie. Tourne ça. Côte d'Ivoire, Équateur. Bon, Edou me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, d'habitude, on écoute l'entraque, les commentaires, tu te le quittes, je pratique mon anglais avec ça. Je dis, hey, tu comprends pas, man. Côte d'Ivoire, Équateur. Il dit, Côte d'Ivoire, Équateur. Ben, oui. J'ai dit, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné de match en Coupe du Monde depuis septembre 2014. Et d'où on va peut-être assister à un grand moment. Je dis ça, paf, Côte d'Ivoire marque des minutes supplémentaires, l'emporte 1-0. J'étais dans le salon chez nous, j'étais fier pour ma Côte d'Ivoire. Tu comprends?
C'est incroyable. Comment... OK, finalement, c'est pas ta nation. T'es un citoyen du monde.
Oui, c'est un citoyen du monde. Oui.
Exactement. Jeff, t'es un globe trotteur dans ton salon.
Ou ben,
c'est ça qu'on comprend.
La dernière personne que Jeff a rencontrée... Selon son pays d'origine, c'est ça.
C'est ça. Devient,
oui.
C'est ça, sa nation officiellement. Mais d'où est-ce que tu avais ça, cette information-là, sur l'Équateur?
Équateur-Côte d'Ivoire?
Oui.
Ben, je suis allé faire mes recherches.
OK, fait que tu avais lu dans la journée,
ben,
tu avais eu cette information-là,
ben,
tu as fait cette stats-là.
Ben oui, je lis les pre-games, là, j'ai dit, hein, Côte d'Ivoire, faut que je check ça à soir.
Après ça, il croise un Équatorien puis il prend pour l'Équateur. C'est extraordinaire.
Ah ouais, c'est sûr. Fait que là, c'est l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite que
oh,
je peux écouter à soir.
Prends pour qui, là?
Quand je reviens, ben, je pense que je vais prendre pour l'Uruguay. Arabie Saoudite, quand même, un peu de misère. Là. C'est des dictateurs. Uruguay, par exemple, faut que je m'informe un peu. Là.
Okay, je
vais t'avouer que
l'Uruguay,
je le connais pas trop, là, présentement,
ben,
comme pays. Aide-moi, c'est quoi l'Uruguay?
L'Uruguay est un pays de l'Amérique du Sud, très bon en soccer, premièrement, à ma connaissance, qui sont très faibles. Mais j'ai pas l'impression que c'est une dictature, effectivement, mais bon. à valider. Tu sais, des fois, on perd un peu le fil là, de ce qui se passe en Uruguay.
Je vais prendre pour mon Uruguay. Fait que tout ça pour faire sûrement un parallèle très boiteux, mais je vais le faire quand même. Faut être ouvert aux communautés, les amis.
Ben oui,
faut
tout
être
à
ouvert
fait.
Au monde.
Ça c'est le bon point.
Faut pas être comme les policiers des ESPVM.
Mais là, 971-1021, si il y a des gens de l'Uruguay, si on a des Uruguayens ou Uruguayennes à l'écoute, textez-nous, s'il vous plaît.
Vantez-moi votre pays.
Oui,
parce qu'à soir...
Puis où vous allez écouter le match, parce que Jeff va sûrement aller vous rejoindre.
Parce qu'à soir, moi, là je suis...
Un cœur à prendre.
Oui, je me sens comme quelqu'un qui vient de l'Uruguay.
Bon, et s'il y a des Saoudiens qui nous écoutent, vous pouvez envoyer aussi vos arguments par texto pour que Jeff prenne pour vous.
Parce que là, tu sais, c'est la Coupe du monde. Je suis embarqué dedans à 100%. Ma blonde qui pensait qu'avec la Ligue nationale qui était finie puis la NBA qu'elle aurait à paix, oublie ça, chérie, t'auras pas à paix. Je suis dans la Coupe du monde. Hey, jeudi 18h, le Canada qui a son deuxième match contre le Qatar. Le Qatar, en passant, qui a égalé la Suisse. Ça, on ne s'attendait pas à ça du tout dans la dernière minute. Fait que là, ça fait en sorte que les quatre équipes du pool ont chacun un match nul. Le pool est ouvert pour le Canada. Le chemin est en train de se tracer pour un parcours historique.
Mais ça reste que c'est ça. Il y a ça qui est fou avec le soccer. Tu sais, pendant le hockey, pendant les matchs du Canadien, tu sais, oui, avec les chums, puis avec tu sais, même Gab puis Mathieu, l'autre bord du côté de week-end, on s'écrivait un peu. Mais tu sais, plus des textos genre « Hey, c'est malade, gros match, quel game de fou ». Tu sais, des petites phrases quand même, des affaires rapides là, dans le...
Général.
Général. On a reçu à la fin de la semaine dernière Andy Cerqueira, qui est un grand, grand fan de soccer, qui est venu nous expliquer un peu la Coupe du monde, le Canada, pourquoi on a des chances, puis qui nous a expliqué aussi un peu que c'était en train de changer tranquillement là, le parcours pour partir de jouer au soccer à partir de l'âge de 3-4 ans et se rendre jusqu'à l'équipe nationale, qu'on est en train au Canada de tracer une trail qui va être la même pour tout le monde et pas plein de chemins différents. Bref, c'était super intéressant. Et là, finalement, quand il y a eu cette nulle-là, écoute, les messages textes qu'il m'envoyait, c'était des chapitres de romans. Comment c'était? Tu comprends pas, t'as pas idée. Tout est ouvert, tout est nouveau. C'est comme si on partait le tournoi à neuf.
Exactement.
C'est un grand reset, c'est exceptionnel. C'est pas... Et c'était là, puis je le sentais me crier dessus par texto.
Oui.
Tellement, les gens sont tellement engagés là, dans le soccer. Là.
J'étais au Blackstone, puis là, le match venait de finir, 14 Suisses, avec mes gars. Puis là, j'ai dit aux gars, les gars, ça vient de finir. Le 14 a égalé dans les dernières minutes. On s'est tapé des mains, c'est juste qu'on s'est pas serré les bras pour dire « Ça y est, notre parcours est ouvert! » T'imagines? On regarde à peu près jamais de soccer, c'était la trail s'ouvre.
Mais en même temps, si ça, des événements comme ça peuvent permettre... Je prends l'exemple de Félix Auger-Aliassime dans les dernières années.
Clairement.
Mboko en ce moment aussi. Ginkan
Bresco. Tu ne te souviens pas d'Eugénie Bouchard.
À quel point ça a créé un intérêt beaucoup chez les jeunes. Et c'est un intérêt qui était peut-être moins... sporadique que chez les adultes. T'sais, nous autres, le tournoi va être fini, puis on va comme laisser aller ça un peu, puis ça va aller à la prochaine Coupe du Monde avant que l'enthousiasme revienne. Mais des fois, c'est ça. Chez les jeunes, ça peut semer quelque chose de... Parce que, tu sais, moi, je l'entends, le discours, là. Les amis de mon plus vieux, là, on s'en va à l'école le matin, là, puis juste depuis le début du tournoi, là, whoop, là, il y en a un ou une qui dit « Ouais, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je vais être joueur de soccer professionnel. » Tu sais, le tournoi vient de commencer, mais à partir de là, si le kid est inscrit à un camp de soccer ou s'il est inscrit à une équipe de soccer cet été, on ne sait jamais ce que ce genre d'événement-là peut créer chez les jeunes.
Les stades sont remplis, même aux États-Unis. Hier, Côte d'Ivoire, Équateur, 70 000 personnes à Philadelphie pour voir le match.
Ça montre aussi à quel point il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent.
Ceux qui se le demandent, 10e minute de jouer, c'est toujours 0-0 entre l'Espagne et Cap-Verdé.
Bon, j'ai deux choses à dire. Premièrement, je veux confirmer que l'Uruguay est effectivement une démocratie, une des plus établies du continent.
Puis là, on me dit par texto que ça ressemble au Danemark.
Ouais.
Fait que je suis full heureux. Full heureux de prendre pour eux.
OK. Puis, deuxième chose, bon, vous savez que j'écoute pas vraiment les matchs, là, puis que c'est très limité mon intérêt pour le sport. Moi, la dernière fois que j'ai vraiment suivi la Coupe du Monde, c'est quand l'Italie a gagné, puis que Zidane a envoyé un coup de tête là, dans le joueur de soccer.
Oui. Un coup de boule.
Je m'en souviens très bien. Mais j'adore les documentaires sportifs.
Ouais.
Ceux qui n'ont pas vu Le Bus, donc le documentaire Le Bus, les Bleus en grève, c'est disponible sur Netflix. Ça raconte un peu les années qui ont suivi cette Coupe du Monde de 2006, quand la France avait lamentablement perdu à cause de leur attitude. Comment ils sont rentrés dans une période hyper difficile. Et c'est l'histoire d'une gestion de crise tellement mal géré, moi qui est passionné de relations publiques, et j'adore les documentaires sportifs, bizarrement, même si j'aime pas bien le sport, c'est excellent. On est en train de vivre la Coupe du Monde ces temps-ci. Là. Si vous voulez prendre un break entre deux matchs, écoutez ça.
Ouais, faut que je regarde ça. Fait que Uruguay, je peux prendre pour eux ce soir. Puis demain soir, ben quand je vais venir du gym, c'est facile, c'est l'Irak contre la Norvège. Fait que là, je vais prendre pour nos amis norvégiens. Ça va être aussi simple que ça. Jeudi, je prends pour le Canada. J'adore le soccer. On passe au caucus?
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Hey, on me dit par texto, ouais, mais si le 14 gagne contre le Canada, le rêve est pas mal fini. Je le sais. Fait que jeudi 18h, là. Ouf! C'est le gros match. Je pense que je vais faire une exception. D'habitude, du lundi au jeudi, je prends pas d'alcool, mais là, je dis pas le choix. Si Connor McDavid avait son drink vendredi, puis il joue dans la Ligue nationale.
Ouais, mais c'était peut-être un mocktail, là, Jeff.
Exact. Puis t'as pas besoin d'alcool pour avoir du plaisir et célébrer.
Ouais,
vous avez raison. Merci de m'en remettre. Merci de m'en remettre dans le droit chemin. Anto, ça a brassé pas à peu près en fin de semaine. Il y a eu l'histoire, évidemment, avec le SPVM. On va en parler tout à l'heure avec l'avocate criminaliste Vicky Powell, parce que ce que je veux parler avec toi en premier lieu, c'est vraiment de cette attaque... PLQ, PQ, on est dans des histoires criminelles. On commence tout d'abord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, vendredi dernier à l'Assemblée nationale.
Qui impliquait des dizaines de personnes. Il y a des liens qui ont été faits avec un député fédéral. Est-ce qu'il y a des liens avec le crime organisé? Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a un événement de financement pour créer une caisse occulte qui a eu lieu. Alors, moi, je ne suis pas enquêteur de l'UPAC, mais je sais que lorsque l'UPAC enquête, c'est parce qu'on soupçonne des activités criminelles.
Là, Charles Milliard n'était pas content.
Alors, cette fois-ci, ça ne passe pas. Il y a toujours bien des limites. En associant le Parti libéral du Québec au crime organisé, Paul Saint-Pierre Plamondon a franchi une ligne qu'aucun chef politique sérieux ne devrait avoir franchi.
Mise en demeure contre Paul Saint-Pierre Plamondon de la part du Parti libéral du Québec. Anto, dis-moi donc, Charles Milliard, de par son inexpérience en politique, est tombé direct dans le piège, dans le panier de crabes?
Bon, je suis d'accord avec la deuxième partie de ta phrase, il est tombé dans le piège, mais je pense pas que c'est une question d'inexpérience. Puis j'entends beaucoup ça ces temps-ci, là, que l'équipe autour de lui serait inexpérimentée et tout, ouais. Mais moi, ce que j'entends dans les couloirs, c'est que il y avait pas mal de pression de libéraux d'expérience.
Oui, c'est ça.
Des anciens.
Le fameux caucus, ces fameux anciens-là qui sont impliqués.
Qui avait comme beaucoup d'émotions par rapport à ça. Parce qu'évidemment, quand tu es libéral, tu te fais accuser d'être corrompu de manière régulière. Et d'ailleurs, il faut quand même se dire qu'il y a eu des événements troublants entourant le Parti libéral, puis qu'on ne peut pas les ignorer non plus. Puis c'est pas pour rien que Paul Saint-Pierre Plamondon, il voit un terreau fertile de lancer des messages cela dans l'espace public.
Il a rappelé Tony Tomassi en conférence de presse samedi.
Le financement pendant la campagne de Pablo Rodriguez plus récemment. Il y a eu des enquêtes de l'UPAC sur le Parti libéral. On peut rappeler la commission Charbonneau. Il y a toutes sortes de choses à rappeler. Bon, maintenant, est-ce que PSPP avait le droit ou avantage à ajouter ce petit terme? Tu sais, tu mets le petit orteil là, l'autre bord de la ligne, là. Crime organisé.
Ouais.
Le crime organisé, c'est pas juste des activités criminelles qui sont organisées. Ça réfère à quelque chose de bien particulier.
Bien, ça réfère à une
mafia,
structure, c'est ça.
Les Hells, ça, c'est du crime organisé. Ça, c'est un concept qui existe. Bon, le PQ s'est défendu dans les heures suivantes en disant, bien, c'est pas, nous, c'est une définition juridique, c'est pas nécessairement ça à quoi on faisait référence. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, là.
Ben oui.
On s'entend. Puis, juste vous dire aussi, le point de presse de PSPP vendredi, c'était les bilans à l'Assemblée nationale. C'est la dernière journée des travaux parlementaires de toute la législature, là, depuis 2022. On s'en va pour la pause estivale. Les partis s'en vont en campagne. C'est comme le dernier point de presse très solennel avant de commencer vraiment la pré-campagne électorale où là, les gens vont plus être dans des épluchettes de bledin puis dans des barbecues. C'était un moment important. Puis tu veux laisser un message qui va être celui... Tu sais, avant Noël, on dit de quoi les gens vont parler autour de la dinde. Bien, le vendredi de derniers travaux de l'Assemblée nationale, c'est de quoi les gens vont parler autour de la piscine ou autour du barbecue. Et en général, le message, c'est « on a été très bon, voici ce qu'on a fait, puis les autres, c'est des pas fins, voici, voici, voici. » Et c'est toujours plus difficile de faire passer un message positif qui va percoler dans les médias qu'un message négatif.
Fait que là, de dire « criminel »,« crime organisé », tu te dis « ça va jaser autour du barbecue ».
Et ça fonctionne. Ensuite, ben une fois que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit le mot « crime organisé », sur quoi vous pensez que les questions portaient? Les journalistes, après le discours de PSPP, posent des questions. C'était tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? À quoi vous voulez référer? Vous dites que le PLQ a des liens avec les Hells. Qu'est-ce que vous... Donc, toutes les questions après tournent autour de ça. Tous les gros titres font référence à ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'espace et ça vole toute la lumière. Donc, moi, j'ai l'impression que PSPP a une impression de contrôle quand il fait ça. Ça lui donne l'impression que c'est lui qui mène le jeu.
J'aime ça.
Les autres réagissent à ce que lui a dit. Les journalistes parlent de ça. Ils ne parlent pas d'autre chose pendant ce temps-là. Ils ne posent pas des questions sur certaines choses peut-être qu'il ne ferait pas son affaire.
Il ne ramène pas « tu t'en veux-tu encore pour ta sortie avec les artistes? »
Non, c'est ça.
Il ne parle pas de tout ça.
Ça occulte d'autres enjeux. Et je pense qu'il savait très bien que Milliard allait tomber dans le panneau. Ce qui s'est passé. Je reviens sur Charles Milliard, mais pour le PQ, c'est sûr que ça laisse une impression deux fois dans la même semaine de jeter des bombes. T'sais, il y avait eu le TGV.
Oui.
Puis là, on arrive avec le crime organisé. On pourrait s'interroger sur l'impact que cette approche-là a sur l'électeur moyen. Parce qu'il y a les électeurs qui sont déjà acquis, puis ça va assez bien au PQ. Mm-hmm. On est encore à 30 % dans les sondages. Mais on va s'en aller en campagne électorale. Puis il y a les péquistes purs et durs, mais il y a aussi l'électorat un petit peu plus hésitant. Ces temps-ci, les gens ne sont pas vraiment décidés. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message cette dernière semaine de travaux parlementaires pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Bien, c'est sûr, je trouvais ça plus négatif. Ça donnait une impression aussi qu'on veut vraiment brasser beaucoup.
Oui.
Est-ce que c'est stratégique? Je laisse la question en suspens pour l'instant, on y revient. Et maintenant, la réaction de Charles Milliard et du Parti libéral. Premièrement, vendredi, ils n'ont pas réagi.
Non.
Ils ont dit... Leur ligne...
C'est écrit, là, mais...
Ouais. Mais leur ligne, c'était « on va réécouter ça, on va relire ça ».
En plein ça.
Puis là, je me disais, bien, premièrement, vous l'aviez écouté, là, ça prend 5 minutes. Je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu. Je ne sais pas ce que vous voulez réécouter.
Oui, puis là, vous avez du staffer politique anyway qui est en train d'écouter sa conférence. Fait que vous avez tout entendu.
Puis envoyer cette ligne-là à tout le monde, ça prenait plus de temps pour écrire qu'il allait réécouter que de réécouter. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé ça un peu bizarre, puis je me suis dit, check ben ça. S'ils sont lents comme ça, là, c'est parce qu'ils s'en vont dans la voie juridique.
C'est parce qu'il y a des avocats. Ah.
Les avocats sont sur le cas. Et ça, ça amène une autre question. En politique, on s'attaque les uns les autres. Puis des fois, on ne dit pas des choses qui sont tout à fait objectivement vraies ou quoi que ce soit. Si tu commences à poursuivre les gens puis envoyer des mises en demeure, à chaque fois que tu as l'impression que c'est de la diffamation, ça finira plus, je vous le dis.
Oui, puis est-ce que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale où Paul Saint-Pierre Plamondon était, il n'y a pas une espèce de...
D'immunité.
Oui, d'immunité, voilà, merci.
Au salon bleu, donc puis là, qui est le rouge en ce moment, mais okay. En chambre...
Pas dans le hall.
Exactement. Donc, quand tu es en chambre, tu es immunisé. D'ailleurs, si quelqu'un est poursuivi par la police puis il rentre dans le salon bleu, ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc,
t'es
c'est vraiment
immunisé,
ça.
Mais ceci bon dit, tu n'as pas le droit de dire le mot girouette.
C'est ça, il y a un lexique.
Fait que t'es immunisé, mais il n'y a pas grands attaques que tu peux faire.
Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que tu ne te feras pas poursuivre pour diffamation, mais tu peux...
Il y a un décorum.
Il y a un décorum, puis il y a des règles, puis il y a d'autres procédures qui sont un peu à part.
Parce qu'André Fortin a dit justement le terme « mafieux » vendredi dernier, puis là, la présidente a dit
«
vous allez retirer votre mot », puis je le retire. Mais il est content parce qu'il l'a passé quand même.
Il faut comprendre que c'est un terrain qui a ses propres règles, un peu. C'est un peu comme l'armée versus la société civile. Ils ont leur cours martial. Ben, l'Assemblée nationale a d'autres procédures un peu à part.
C'est exactement comme quand je joue au Uno avec mon plus jeune.
Ah, il y a des règles qui s'appliquent.
Règles.
Oui, c'est exactement.
Il change, hein, il change d'une partie à l'autre de sa départ.
C'est ça, faut suivre. Faut suivre la game absolument.
Exact.
Je trouvais ça intéressant la sortie de samedi de Paul Saint-Pierre Plamondon quand il a mentionné bon, un paquet d'affaires encore là, il a passé un paquet de messages aussi sur le fait que, tu sais, dans les derniers mois, il y en avait eu quand même beaucoup des retours juridiques de la part du PLQ envers le PQ. Mais il a mentionné une phrase, puis là, je sais pas d'un point de vue légal à quel point ça tient ou pas, mais il a dit « j'attaque pas personne, je parle du parti politique, il a jamais nommé personne non plus ». Fait que est-ce que ça tient lieu et place dans une situation...
Je
comme
pense que oui. Je pense que quand tu attaques une organisation, mais ça dépend encore une fois. Puis les questions de diffamation, en passant, c'est des poursuites qui sont difficiles à gagner. C'est dire quelqu'un m'a diffamé, il faut que tu montres vraiment que tu es lésé, qu'il y avait une intention qui était malicieuse derrière ça. Bref, je ne suis pas avocate, là, je veux pas trop m'avancer plus loin que ça. Mais c'est assez difficile à prouver qu'il y avait mauvaise intention, que tu as été lésé, puis que c'est vraiment de la diffamation, surtout qu'on est sur le terrain politique. Il va en avoir des attaques.
Ben, c'est ça.
Moi, le moins possible des procédures juridiques sur le terrain politique. Je comprends leur colère. C'est fatigant de se faire dire des affaires de même. Puis moi aussi, je trouve que le mot crime organisé, ça allait un peu loin. Maintenant, ils font juste rallonger la nouvelle. Donc, il y a plus de nouvelles et de gens qui parlent et de messages dans lesquels il est écrit « Parti libéral, crime organisé, UPAC ».
Okay? T'as tellement raison. Moi, ma réaction, ça aurait été de dire « Hey, savez-vous quoi? Nous autres, on va être les grands garçons, on n'ira pas jouer sur ce terrain-là. »
Il s'en va dans la boîte, je ne les suivrai pas là-dedans.
Ciao, bye.
Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Là, ce que ça donne comme impression, c'est qu'il y a deux messieurs là, qui chicanent, qui s'envoient des mises en demeure, puis l'autre envoie des insultes, puis whatever. Et pendant ce temps-là, qui sort gagnant de ça?
Ben, je vais te faire entendre qui sort gagnant de ça. Écoute bien ça.
Ben, je pense que les gens le voient, le changement. En tout cas, moi, je le sens beaucoup sur le terrain, puis les collègues aussi me le disent. Le fait que j'arrive avec ma couleur, ma personnalité, déjà que je sois une femme, hein, ça génère un changement. Changement d'approche, changement de style. Et puis, nos priorités, les Québécois ont pu voir au cours des deux derniers mois, là, comment on fonctionne sous un gouvernement Fréchette.
Et voilà. Le changement d'approche, le changement de style de Christine Fréchette vient de l'emporter sur la chicane PQ-PLQ. Ils ont redonné vie à la troisième voie.
Et une erreur que les partis politiques font souvent, c'est de parler beaucoup d'eux-mêmes et très peu des Québécois.
Ouais.
Puis, à leur défense, je vous le dis, c'est beaucoup plus difficile de faire passer dans l'espace public des bonnes nouvelles, des propositions, des trucs constructifs que de la controverse. Évidemment, la controverse, on met la loupe grossissante toujours dessus. Mais des fois, quand on est dans... Tu sais, on regarde ça, là. Puis là, tu te dis, bon, ben à propos des services publics, des finances publiques, des grands projets, on parle pas de ça présentement. Ce qu'on dit, c'est tu m'as insulté. Non, c'est toi qui avais commencé. C'est une attaque personnelle. Non, toi, c'est une attaque personnelle. Pendant ce temps-là, On n'est pas en train d'établir sa vision. Puis je ne suis pas fan des faux dilemmes. Tu peux faire deux choses en même temps. Mais honnêtement, si j'avais été à la place de Charles Milliard, j'aurais eu exactement la ligne que tu avais tantôt. C'est-à-dire, écoutez, vous voyez, commencez à comprendre un peu le chef du PQ, comment il fonctionne.
C'est ça,
moi, je n'embarquerai pas là-dedans.
Exactement.
Moi, ma priorité, c'est l'économie. Est-ce que ça vous intéresse? Ben, parfait. Ouais. Voici mes propositions. Bon, il faudrait qu'il les précise, mais ça, c'est un autre enjeu.
L'économie, la saine gestion des finances publiques, c'est ce qu'il nous a répété ici sur les ondes de Boulevard 101. Et Marc Tanguay aussi, le leader parlementaire. Puis vois-tu, quand je lis les textures, continue de réagir au 418-971-101. C'est unanime. Les gens disent, pas d'un paquet de niaiseries. Ça nous tente-tu pas d'embarquer dans ces chicanes-là?
Puis les péquistes sont peut-être un petit peu aveuglés par les commentaires sur les médias sociaux, parce que je suis allée voir sous les publications.
Ça m'intéresse, parce que t'es ceux qui parlent juste à leur base, puis qui veulent donc toujours que leur base là, elle soit derrière.
La base
elle,
est derrière le PQ. Ça, je peux vous en passer un papier.
PCQ fait souvent cette erreur-là. Respect citoyen ici, l'opposition officielle à la Ville de Québec fait cette erreur-là à peu près à chaque jour. Fait que là, tu es en train de me dire que le PQ est embarqué là-dedans?
Ben écoute, je le sais pas. Là, je veux pas leur prêter des intentions. Mm-hmm. Paul Saint-Pierre Plamondon n'aime pas ça. Mais quand je vais voir les commentaires, le Parti libéral se fait ramasser, évidemment. Évidemment. Puis les libéraux n'ont jamais été forts, ces médias sociaux, en passant. Quand tu t'en vas sur X, débattre avec des gens, il y a une surreprésentation d'un type d'électeur.
On sait bien, les libéraux, c'est juste des anglophones de 65 ans qui
votent
pour eux
autres. Non, mais eux autres, ils votent, mais ils commandent pas sur les médias sociaux.
Ben, c'est ça, exactement.
Donc, tu sais, des fois, il faut faire attention au miroir déformant. Mais le PLQ se fait ramasser. Puis ça vient renforcer, pas l'idée que Paul Saint-Pierre Plamondon a bien fait de sortir le mot crime organisé. Mm-hmm. Ça, c'est un autre enjeu. Mais ça vient faire ressortir que le PLQ avait rien à gagner. Ils gagneront pas à faire ça.
Exactement.
Donc, en tout cas, bref, j'espère qu'ils vont avoir appris leur leçon.
Mais en même temps, le PQ, je me fie au texto ici, ben, tu sais, faut que tu ailles conquérir des électeurs. Faut pas juste que tu motives ta base.
Mais c'est ça. À un moment donné, tu as ta base que tu dois toujours solidifier et à qui il faut que tu envoies des tinananes et c'est normal. Mais je reviens sur la question du TGV la semaine passée. La base du PQ n'aurait pas quitté le PQ si PSPP n'avait pas fait cette sortie à fond de train contre le TGV.
En effet.
Donc, ça sert à rien des fois. Alors que de rappeler les problèmes éthiques du Parti libéral aurait sans doute suffi à craquer un peu la base sans finalement amener la question de la poursuite, mais surtout sans que les journalistes soient comme « Mais qu'est-ce que vous voulez dire? » Puis là, obligé de clarifier. Puis là, il clarifie, mais il dit « Mais moi, je pose des questions. Je ne dis pas que... » Mais je... Tu sais, il me semble que dans le dosage, il y a toujours un petit problème qui pourrait faire en sorte que des électeurs plus au centre, plus modérés, qui ne sont pas les premiers à commenter sur les médias sociaux, mais quand ils vont aller dans l'urne, à quoi ils vont penser? Est-ce que c'est le genre de personne que je veux comme premier ministre?
En effet.
Je pose des questions, je n'y réponds pas. Je fais comme PSPP.
Mais c'est quand même fou. J'ai hâte de voir à l'automne comment ça va se placer. Mais tu sais, je pensais pas que c'était comme ça que ça allait se dessiner. Je pensais vraiment que le PQ et que le PLQ partaient avec une longueur d'avance, même avec l'arrivée de Mme Fréchette. Puis je pense pas être le seul qui pensait de cette façon-là. Puis tantôt, Jeff, tu parlais de l'adulte dans la pièce. La sortie de Christine Fréchette démontre que c'est clairement l'adulte dans la pièce
clairement.
En ce moment.
Ça me fait un peu penser à la campagne municipale.
Oui, Bruno Marchand était
bon
l'adulte
quand,
dans la pièce.
Quand sa maman et la chance se chicanaient. Voilà.
Ben oui, Bruno Marchand était l'adulte dans la pièce. Puis là, on a fait comment ça, Bruno Marchand, après un premier mandat difficile, a scoré 49% dans l'électorat? Ben parce que les gens votent pour un adulte.
Voilà.
Ben et c'est
voilà,
ça, ça revient
les gens
ce que tu
votent
disais.
Pour un chef aussi.
Ben oui.
Et Christine Fréchette est en train de se positionner comme une chef crédible.
Après une dure semaine quand même pour Christine Fréchette,
ben oui.
Ce que PSPP a fait, c'est ça, c'est que la semaine de la CAQ, c'était pas bon. Okay?
Ben
il y avait le rapport de la VG sur la filière batterie, c'était catastrophique. Il y avait cette histoire de lanceur d'alerte qu'on avait mis à la porte. Et là, PSPP, dans son point de presse, au lieu de continuer à fesser ce clou-là sur Christine Fréchette, surtout que les électeurs du PQ puis de la CAQ sont un peu plus proches que ceux du Parti libéral versus le PQ, a décidé de faire sa plus grosse attaque contre le Parti libéral, donnant de l'oxygène, finalement, à Christine Fréchette. Donc, drôle de stratégie.
Toutes les parties ont scoré dans leur propre but. Finalement, la semaine passée,
et voilà.
C'est ça qui s'est passé.
Oui, puis il y en a un qui avait vraiment scoré dans son propre but. C'était le PCQ avec son histoire de pamplemousse et de boissons énergisantes. Mais là, il a marqué un bon point ce matin. Lettre ouverte. mentionnant que, hey, écoutez, on va avoir 4 ou 5 débats des chefs. Ça n'en prend au moins un à Québec. Éric Duhaime était sur nos ondes ce matin, dans Marceau le matin. Il expliquait premièrement tout l'aspect retombée économique que j'avais pas vu, les équipes qui sont là, le fait que l'UMQ va se déplacer pour un déjeuner, inviter les chefs, etc. Puis il a aussi rappelé que, savez-vous quoi, ça se fait un débat à Québec.
Ça serait pas la première, en passant, là, que première fois qu'il y a un débat, qu'il y a des débats des chefs à Québec, là. Moi, je me souviens, je conseillais Mario Dumont, justement, pour le débat des chefs, puis je me souviens que, je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, la fois qu'il avait parlé du viaduc, là, puis qu'il avait sorti un papier à Jean Charest,
oui.
Puis il avait fait un gros jaser en 2007, mais c'était dans le Parlement. Ça, on a le plus bel endroit pour faire un débat des chefs, là, c'est à l'Assemblée nationale. Ils peuvent le faire soit dans le restaurant parlementaire ou dans le hall, là. Il y a deux endroits qui sont assez
grands
pour accueillir ça, puis ça ferait super.
C'est vrai que ça serait super beau comme endroit aussi, mais moi, si oui. Je peux faire une suggestion au Parti ouais. conservateur, moi, mes enfants allaient dans un CPE qui s'appelait le CPE Pamplemousse.
Ah oui!
Wow!
Si jamais,
puis des fois, on trouve que c'est une garderie en plus,
ben,
fait, tu vois.
Écoute, c'est vrai,
il
pourrait être super bien encadré.
Garderie, dans garderie des Pamplemousse.
Thématique famille.
Ça serait bon. Mais superbe sortie d'Éric Duhaime, puis honnêtement, ça en prend plus des sorties comme ça du Parti conservateur.
Tellement.
S'ils veulent monter dans l'électorat. Il a raison, la capitale nationale, c'est pas normal que tout se passe à Montréal. Déjà que les annonces se passent en majorité à Montréal maintenant. Puis toi, je veux dire, là, les réseaux de télé, là, ils se déplacent. De toute façon, ils ont des équipes à Québec, là, Radio-Can, TVA, ils ont déjà des studios. Ils doivent être capables de
organiser
un débat des chefs.
Ça se fait très bien. Puis Éric Duhaime, je trouve qu'il a rappelé avec brio que c'est lui le chef de Québec, dans le sens que les autres chefs sont tous de la région de Montréal ou de l'Estrie. Donc, c'est intéressant comme positionnement, puis c'est constructif. Puis ça fait en sorte que les autres vont se positionner par rapport à sa proposition. Je vois pas pourquoi ils diraient non, d'ailleurs, les autres partis. C'est davantage, c'est plus tannant pour les médias, soit dit en passant, parce qu'organiser des débats, c'est compliqué. Et ce sont les médias qui décident des règles de qui est invité puis comment ça va fonctionner, mais en négociation avec les partis politiques. Donc, une fois que les partis vont avoir dit « Ouais, mais nous, on aimerait ça qu'il y en ait un débat à Québec », là, on peut s'interroger sur lequel, parce qu'il y en a un avec le consortium Radio-Canada, il y en a un, il y a le face-à-face TVA, je ne sais pas s'ils vont en avoir un cette année, parce qu'il y avait eu, vous vous rappelez, l'année passée, une petite controverse, parce que TVA voulait charger aux équipes de campagne un prix d'entrée. Et il y a Nouveau qui a annoncé aussi qu'il y aurait un débat, et il y a toujours... des bonnes discussions entourant la présence d'un débat en anglais pendant la campagne.
Éric Duhaime nous a parlé de CTV aujourd'hui, là, qui organisera un débat également. Il s'en est pas caché, il était super transparent. Il dit en même temps, je le dis parce que moi, je veux faire campagne à Québec, campagne à Chaudière-Appalaches, puis là, d'être toujours pogné à aller à Montréal pour ces débats-là, ça fait pas mon affaire. Il s'en est pas caché, il était super transparent.
Puis en même temps, tu sais, c'est vrai que c'est compliqué peut-être un peu pour les équipes, mais tu sais, on a une salle de nouvelles du côté de Radio-Canada ici.
Ben
tu sais,
oui.
On a les
c'est
moyens.
C'est pas si compliqué.
Ton point était bon aussi, Jeff, ce matin, pendant l'entrevue, quand tu as mentionné, tu sais, toutes les équipes télé sont déjà équipées pour se plugger, comme on dit en bon français, assez facilement du côté de l'Assemblée nationale.
Ben, de toute façon, l'Assemblée nationale est ici. Les journalistes de l'Assemblée nationale vivent à Québec. Donc, tu sais, here we go, gagner ça à Québec.
Tu sais, pour Éric Duhaime, là, c'est le genre d'annonce, c'est constructif, c'est le fun, ça le positionne dans ses comptes et cibles, évidemment. Mais en plus, ça coûte pas une scène. Donc, moi, j'ai trouvé ça brillant. Je lui donne mon étoile de journée.
Est-ce que c'était déjà prévu ou est-ce que c'est une équipe de com qui s'est mise en place vu ce qui s'est passé la semaine passée? Il faut qu'on trouve de quoi, faut qu'on réagisse. Puis là, Eureka, hey! On va parler du débat. Il n'y en a pas à Québec. Ça ne marche pas pantoute. Puis...
C'est une bonne question. Moi, je pense que... Peut-être que c'était déjà prévu, mais je pense que le timing est vraiment bon parce que, justement, il n'y avait pas eu l'air très constructif avec l'histoire du pamplemousse et des boissons énergisantes. Puis, ils n'avaient même pas réussi à changer leur gain, c'est-à-dire aller chercher des consultations pour le projet de loi en quelque chose de positif parce qu'ils avaient décidé de continuer de chialer après que ce n'était pas assez puis qu'il aurait fallu faire ci, puis ci, puis ça pour que le projet de loi ait de l'allure. Donc, je trouve qu'ils repartent une meilleure semaine présentement, les conservateurs.
Donc, à suivre, ça va être une autre belle semaine politique parce qu'on est dans la pré-campagne. Donc, il y aura des annonces nécessairement de Christine Fréchette.
Bien, on lui souhaite d'annoncer des candidats à Christine Fréchette.
Oui,
par contre, c'est le bout qui est un peu plus dur.
Bien, t'as raison. Penses-tu que ça va venir plus tôt que tard? On essaie-tu de commencer avec un coup de circuit, puis c'est pour ça que ça prend du temps? Quand
ben, là, ils peuvent pas commencer avec une petite candidature, à mon avis. Là, ils ont la pression.
Ils
ont monté la pression. Christine Fréchette est en tournée d'entrevue ce matin. C'est souvent ce qui se passe après la fin de la session parlementaire. Il y a tournée d'entrevue des chefs, puis notamment un premier ministre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et elle a dit, là, il y a des candidatures qui s'en viennent. Mais tu sais, je rappelle que la seule fois où on a entendu parler de candidature dans les dernières semaines depuis que Christine Fréchette est première ministre, c'était un courriel qui avait été envoyé à des jeunes leur disant « Hey, le jeune, ça te tente de t'impliquer dans la campagne, sois candidat. »
Putain, moi, je rentrais pas dans la tranche d'âge, fait que j'ai pas pu.
Désolé. Moi non plus, je suis trop vieille.
J'aurais voulu être ministre de la capitale nationale.
C'était quoi la tranche d'âge?
Je pense que les jeunes de la CAQ, c'est moins de 40 ans. Ouais. Donc, c'est jusqu'à 39, j'ai l'impression.
T'as quel âge, toi, Nick?
J'ai 39. Moi, j'ai jamais reçu ce courriel-là.
Mais il faut être membre de la CAQ, c'est normal.
Ouais. Et OK, c'est pour ça.
C'est tout en neutralité sur les ondes de la radio.
Tout à fait neutre, en plein ça. Non, mais c'est pas, je me pose des questions, des fois, parce que j'ai des amis, à une certaine époque, à la blague, qui m'avaient inscrit à la journée d'embauche chez McDonald's.
Ah, ben oui.
J'ai jamais été rappelé.
Non?
Oh. Ouais.
C'est triste.
Puis ils m'ont donné un micro.
Mais chacun ses forces.
Oui, oui, c'est ça. T'es meilleur au micro qu'avec les patates frites.
Faisais pas confiance
au
pour les Big Macs.
Au micro du service à l'auto, là, je t'aurais imaginé.
Oui, c'est vrai.
T'aurais vraiment performé
bonjour,
au service à l'auto.
Puis-je prendre votre commande?
Mais là, ça m'ouvre peut-être une porte finalement pour une future carrière, si vous parlez de ça. Ouais. Faudrait que je me dépêche
mais
à devenir
ça,
membre de la CAQ.
C'est que t'es trop jasant, t'es trop le fun. Fait que là, ça aurait pris 15 minutes par client parce que t'aurais jasé.
C'est sûr, ça aurait été problématique.
Pour la CAQ, par exemple, d'après moi, ils n'ont pas reçu tant de CV que ça.
Écoute, tu peux peut-être essayer.
Fait que je pense que si c'est écrit à Christine... Dans Limoilou, toi, en plus, tu dois chercher quelqu'un pour Limoilou.
Ah, peut-être aussi. Je ferais-tu un bon ministre de la capitale nationale?
Ben oui, tu ferais un bon ministre de la capitale nationale.
Ce serait quoi ta priorité?
Ouais.
Je te passe en entrevue, là.
Écoutez, pour l'instant, ce que je vais devoir faire, c'est évidemment m'asseoir avec les membres du caucus pour bien comprendre exactement quelles sont les priorités de la CAQ.
Il y a de l'avenir.
Parce que je ne fais pas de la politique pour moi, je la fais pour tout le monde, je la fais pour le peuple et évidemment, je veux être sûr de bien endosser mon parti et de bien servir les citoyennes et les citoyens.
Je vote pour toi.
Hein?
418-971-101, votez-vous pour Nathan Meyer. C'est tout le temps qu'on avait pour son discours politique.
À peaufiner. Un petit chair autour de l'os dans les prochaines
semaines. Exactement. Antonin Niacarini, toujours un bonheur.
Merci.
On s'en reparle demain. Vicky Power, l'avocat criminaliste spécialisé, va nous parler de ce qui s'est produit en fin de semaine au SPM. Moi, vendredi soir, je vous l'ai compté, j'étais dans mon divan en train d'écouter du sport à la TV, puis tout à coup, conférence de presse majeure à 22h.
T'as fait un petit lapsus, est-ce que tu veux que je le corrige?
Vas-y donc.
C'est pas le SPM, ça c'est autre chose.
C'est le SPVM,
oui.
En effet. T'as raison.
À ne pas confondre.
Merci de le corriger. Hey. Donc, au SPVM, Fadi Daguerre, le chef du service de police de Montréal, qui a annoncé une conférence de presse à 10h, il l'a tenu. Il a annoncé que 2 policiers étaient suspendus, 14 autres étaient attitrés à des tâches administratives. On parle de gestes de racisme qui s'est produit chez les policiers à Montréal-Nord. Après ça, dans la fin de semaine, il a dit... Hey, savez-vous quoi? Je m'attends à un tsunami d'autres plaintes. Il y a des manifestations ce soir qui vont se produire à Montréal. On espère que ça va bien se passer. Donc, on parle de tout ça avec Vicky Powell par la suite, après cette courte pause, parce que c'est un enjeu tellement majeur. Puis, je vous ai déjà donné la direction de ma pensée là-dessus quand je vous ai parlé que j'étais ouvert à tous les pays de la Coupe du monde. C'était une grande image pour dire « soyons ouverts aux autres communautés ». C'est pas vrai qu'il y a plus de crimes chez les communautés immigrantes que chez les Québécois de souche. Et ça, c'est par capita, c'est les statistiques qui le prouvent.
Jusqu'à 20.